Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangou et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du forum de Studio Kalangou. 13 février, journée mondiale de la radio. Cette année 2024 marque 100 ans depuis la première diffusion en direct à la radio des Jeux Olympiques à Paris. Occasion importante de commémorer les nombreuses vertus du média et sa puissance continue. Le thème de la journée mondiale de la radio en 2024 met en lumière le passé remarquable, le présent pertinent et la promesse d'un avenir dynamique de la radio, souligne l'UNESCO. Malgré le poids croissant d'Internet et des réseaux sociaux, la radio demeure une source d'information et de divertissement de premier ordre. L'ONU estime à plus de 4 milliards de personnes le nombre d'auditeurs. Nous disons merci aux 3,4 millions d'auditeurs et auditrices du studio Kalangou. La radio et les autres médias cohabitent dans la sphère informationnelle. Au bienfait des contenus de la radio s'immiscent malheureusement des fausses informations propagées notamment à travers les réseaux sociaux et répercutées sur les radios. La radio au Niger face à la désinformation, quelle perspective pour le futur? Voilà le sujet de notre débat. Alors, pour débattre du thème, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio M. Mama Mamadou. Il est expert en journalisme, un des doyens des journalistes du Niger. Bonsoir, M. Mamadou.
Bonsoir.
Mariam Soumana, elle est jeune journaliste. Bonsoir.
Bonsoir,
Mme. Et Bra Souleymane, il est fact-checker et président de l'Association nigérienne pour l'éducation aux médias et au numérique à NEM Niger. Bonsoir.
Bonsoir, Nafissa.
Je suis Nafissa Adam Sirko à la modération. Merci à tous de nous suivre chez vous pour ce numéro du forum de Studio Kalangou. Et comme je le disais en introduction, la radio entame son deuxième siècle de service en tant que l'une des formes de médias les plus fiables et les plus utilisées au monde. Un siècle d'information, de divertissement et d'éducation. Je commence avec vous, Madame Mariam Soumana. Vous êtes un jeune journaliste, alors aujourd'hui, dites-nous pourquoi avez-vous choisi la radio et pas un autre type de média?
Ok, Nafissa, merci pour l'occasion que vous nous offrez de nous parler sur votre antenne Studio Kalangou à l'occasion de la Journée internationale de la radio.
Tout le plaisir est pour nous.
Et entre la radio et moi, il y a toute une histoire. Et au début, je ne l'ai pas choisi, c'est la radio qui est venue vers moi.
C'est-à-dire que vous n'avez pas commencé avec la radio donc?
Oui, je n'ai pas commencé avec la radio. À l'IFTEC, on était parti pour la radio et la télévision. Je parle sous le contrôle de mon enseignant, M. Maman Mamadou Zarami. J'aimais trop la télévision. Quand il nous donnait des exercices, je faisais, parce qu'on avait le choix entre faire un élément audio et un élément télé. Moi, j'ai toujours opté pour la télévision. Je faisais télé au point où il a promis de créer pour moi une télévision. À chaque fois, il me dit, Mariam, attends, je vais créer une télévision et je vais t'embaucher.
Vous aviez un amour pour la télévision.
Voilà, pour la télévision. Au début, quand je faisais l'IFTEC, au fil des années, j'ai séjourné à Dounia. À Dounia, on faisait la radio et la télévision, mais j'ai été promue au poste de rédactrice en chef adjointe de la radio. C'est là-bas que j'ai commencé à aimer la radio. On faisait des éléments et il y avait un collègue qui, lui aussi, c'était un homme spécifiquement radio. Lui, il n'aimait pas la télé et c'est lui qui m'a fait aimer la radio. Donc, j'ai commencé, je faisais la télé, je faisais la radio. Mais ce qui m'a beaucoup poussé vers la radio, c'est cette capacité de travailler en solo. À la radio, il suffit juste d'avoir ton enregistreur, tu pars sur le terrain, tu fais ton interview, tu reviens avec, si tu as ton logiciel, seul tu peux monter ton élément. Oui, et c'est très rapide, c'est très efficace. C'est ça qui m'a fait aimer la radio à mes débuts à Dounia. Mais un peu plus loin, quand j'ai été embauchée au niveau de la BBC, c'est là-bas
que j'ai... Le média international.
Voilà, dans le média international,
c'est là-bas que j'ai... Vous êtes correspondante.
Je suis aussi correspondante de la BBC, c'est là-bas que j'ai beaucoup aimé la radio. Et parce que j'ai vraiment cette capacité de travailler seule à n'importe quelle heure. Il suffit juste d'avoir le son, j'ai ma machine, le logiciel, et je travaille seule. Et l'autre chose qui m'a fait aimer la radio, à la radio, certes, on ne voit pas l'image, mais quand tu traites un élément, tu transportes l'auditeur, voilà, sur le terrain, avec l'ambiance. C'est vraiment ce qui m'a
animé, et les mêmes parlent quoi de
la radio.
Même, oui, effectivement.
Voilà.
Merci bien. Alors, merci, Mrema Soumana. Monsieur Mamadou, vous êtes expert en journalisme. Vous êtes un des doyens des journalistes du Niger. Vous avez été enseignant à l'IFTIC, à l'ESCOM, l'ancien IFTIC. Aujourd'hui, dites-nous, en tant que doyen de le journalisme, que pouvez-vous dire sur l'évolution de la radio ici au Niger?
Merci. Tous mes remerciements. C'est pour la première fois que je me retrouve dans le studio de Kalangou. Et je suis fier de voir qu'une bonne partie des gens qui animent cette radio sont mes disciples.
Justement.
C'est déjà une très grande fierté pour moi. La radio, vous savez, j'ai commencé par la radio, évidemment. En ce moment, la télévision n'existait pas. C'était Radio Niger.
Dans les années
72, moi-même, quoi. Mais sinon, disons que la radio Niger a été créée en 1958. Et là, j'ai beaucoup aimé la radio pour la simple raison que quand vous travaillez en radio, comme l'a dit tout à l'heure Mariama, vous êtes seul. Et en plus, quand vous écrivez quelque chose, vous emportez les gens. Celui qui écoute a l'impression que vous vous adressez directement à lui. Et ça, c'est intéressant. Pour la simple raison aussi que quand vous donnez un travail à quelqu'un pour regarder la télévision et un autre pour écouter la radio, et après demandez-leur de rendre compte,
celui de
la radio vous fera, disons, un compte beaucoup plus fidèle. Parce que celui de la télévision, il va passer son temps à regarder le boubou, la cravate, etc., quelque chose qui est mal placé, au lieu véritablement d'écouter l'interlocuteur. La radio a beaucoup évolué. Nous, à notre temps, c'était, disons, pas les petits magnétophones qu'aujourd'hui on transporte, c'était le Nagra. Ça fait quelque chose de 12 kilos.
C'était lourd.
C'était lourd et ce n'était pas comme vous où facilement vous avez un véhicule, parfois même climatisé, pour vous amener à l'endroit où vous allez travailler. Alors que nous, on prenait en bandoulière notre Nagra de 12 kilos et on se rendait
au lieu
de travail, au lieu d'où vous allez faire votre reportage. Et en ce moment, il y avait seulement deux endroits pour ce qui est des comptes rendus, quoi, où les gens venaient, disons, faire les comptes rendus.
Alors aujourd'hui, comment vous analysez la qualité des informations que diffusent nos radios?
Ah, il y a une très grande différence.
Il y a une très grande différence
parce que avant les gens, nous, on avait le souci véritablement de vérifier l'information. On avait peur de mentir parce que dès l'instant que vous diffamez quelqu'un ou que vous faites du mensonge, tout de suite, les gens vous disent « Ah, ce n'est pas sérieux ». Et en plus, quand les gens écoutent la radio, je ne parle pas de nous autres qui avons eu la chance d'aller à l'école, mais nos parents qui sont des radios néyehodi, radio Noki, c'est-à-dire que c'est la vérité. Et les gens croyaient en cette radio. Mais aujourd'hui, il y en a qui fabriquent même des informations pour les diffuser. Et il y a trop de diffamation. Il y a même des injures, ce que vous ne trouverez pas en notre temps. Vous savez, la formation sur le terrain ou à l'école, les individus sont des individus. Vous êtes, disons, j'ai en face de moi deux disciples. Je ne vous ai jamais demandé d'insulter quelqu'un quand vous faites un reportage. Jamais. Je ne vous ai jamais demandé de mentir. Mais par contre, je vous ai dit les genres journalistiques. Parce qu'un journaliste qui ne connaît pas les genres journalistiques, il aura aussi des problèmes. Parce que là, quand, par exemple, Mariama est là, elle m'a dit une fois à Dounia, mais monsieur, vous ne faites pas ce que vous nous avez dit à l'école. J'ai dit, Mariama, il y a Momo Momodou le journaliste et Momo Momodou qui fait des commentaires.
D'accord.
Donc l'éditorialiste.
Alors,
donc il y a cette différence qu'il faut faire.
Merci
aussi
bien pour ces précisions. Brad Suleiman, vous êtes fact-checker. Donc face à tout ce que vient de dire Momo Momodou, dites-nous en votre qualité de fact-checker, quelle analyse portez-vous sur le contenu des radios aujourd'hui?
Merci beaucoup. Effectivement, quand on voit un peu l'évolution des médias dans notre pays, comme l'a rappelé les doyens. La première radio en 58, aujourd'hui, à partir de 90, rien que les radios communautaires, on a plus de 250 radios communautaires installées au Niger. Mm-hmm. Les radios commerciales aussi. Et maintenant, avec aussi l'évolution, vous avez vu, on a la première télé, c'était en 2020. Mm-hmm. Aujourd'hui, on a plus de 13 télévisions privées avec oui. des télévisions nationales. Mm-hmm. Et ça fait en sorte, effectivement, que c'est devenu des groupes de presse, radio et télévision. Mm-hmm. Mais quand on regarde un peu le contenu, puisque vous avez vous-même, au niveau de votre introduction, rappelé l'importance de la radio, mais on a l'impression qu'on a délaissé la radio au profit de la télévision.
Et selon vous, pourquoi ?
C'est peut-être des choix, peut-être au niveau de ses responsables, mm-hmm. ou au niveau même de ses journalistes, parce mm-hmm. que, comme Mariam l'a dit, beaucoup préfère dès le début peut-être aller au niveau de la télévision, mm-hmm. Puisque c'est l'écran, vous allez devenir une star, mm-hmm. ou dès que vous dépassez, on sait que c'est Nafissa ou c'est Mariam, mm-hmm. ou c'est mm-hmm. Souleymane qui passe, donc vous devenez directement une star. Mais vraiment, la radio est vraiment délaissée, j'allais dire, au profit de la télévision. Et ça, au niveau du contenu, effectivement, il y a tous ces soucis, oui. parce qu'on constate qu'il n'y a pas cette rigueur.
Justement, actuellement, la diffusion des fausses informations gagne du terrain selon l'UNESCO. Bien que l'attention portée à la désinformation se concentre sur les médias sociaux, le phénomène n'est pas nouveau en Afrique. Il est antérieur à l'époque coloniale et à l'ère numérique. Le phénomène donc de la désinformation se répand dans les journaux, les télévisions et dans d'autres formes de médias traditionnels, dont la radio. Je reste toujours avec vous, monsieur Souleymane Bra. Donc, cette situation, elle est aujourd'hui d'actualité. Les fausses informations qui sont répandues un peu partout, est-ce que vous pensez qu'elles sont répercutées par nos médias traditionnels comme la radio?
Oui, avec les réseaux sociaux, effectivement, on assiste à cette propagation ou à cette diffusion des fausses informations. Mmh. Aujourd'hui, la radio, avec l'évolution, vous avez aussi la possibilité de faire les postcards.
C'est-à-dire de
mettre aussi les éléments à ligne. Mm-hmm. Il faut aussi le dire que cette évolution a fait en sorte que nos médias sont obligés d'aller aussi vers le numérique, créer des plateformes, des sites, des pages sur ces réseaux sociaux pour aussi avoir l'audience. Mm-hmm. C'est ça aussi, en fait, l'évolution du numérique. Mm-hmm. Donc, et on constate aussi que ces fausses informations sont diffusés. Mais qu'est-ce qui amène cette situation? Parce que tout à l'heure, le doyen a quand même rappelé un élément important. On dit que j'ai écouté ça à la radio, parce qu'on considère que c'est comme ça. Aujourd'hui, malgré ce qui se passe sur ces réseaux sociaux, on appelle, on dit que non, on va attendre si cette information va passer au niveau de la radio.
Oui.
Donc, et la radio a cette capacité de toucher tout le monde. Vous ne pouvez même pas estimer le nombre de gens,
d'auditeurs
mm-hmm. que la radio touche. Puisque les professionnels, quand même, c'est ça qui différencie les professionnels de l'activiste ou de tout autre blogueur ou autre chose. Mm-hmm. Puisque vous êtes un professionnel. Il faut mettre du sérieux, de la rigueur pour traiter l'élément. Et avec la propagation de ces fausses informations, qu'est-ce qu'on demande aux professionnels? Mais c'est effectivement d'apporter la vraie information.
Justement.
C'est-à-dire que c'est même l'occasion pour les médias traditionnels. Mm-hmm. Parce qu'effectivement, avec l'avènement du numérique, des réseaux sociaux, mm-hmm. on pensait même que ça va stopper la radio, ça va stopper la presse écrite. À l'épreuve des faits, on a vu non, que c'est aujourd'hui, sinon plus que jamais, les gens ou les populations, surtout au niveau du monde réel, ont besoin d'écouter D'accord. la radio. Donc, les professionnels
Merci.
Doivent faire ce travail mm-hmm. pour apporter la vraie information.
D'accord, on va continuer. Alors vous, Mariam Soumana, vous êtes aujourd'hui jeune journaliste qui évolue de la radio, une journaliste de la nouvelle génération, si on peut le dire. Alors, aujourd'hui, comment vous travaillez dans ce contexte où les fausses informations se propagent à une grande vitesse?
Ok, Nafissa, avec les fausses informations, mm-hmm. nous évoluons et je m'en vais d'abord vous donner une anecdote en lien avec la désinformation. Mm-hmm. Il y a de cela quelques années, un journaliste d'une radio de la région de Tillabéri, mm-hmm. vers Tira, a diffusé une information selon laquelle il y aura une attaque de sauterelles mm-hmm. dans la commune. Il n'a pas pris soin de vérifier l'information, il l'a balancé à la radio.
Et ça a touché
Et ça a touché bon nombre d'auditeurs. notamment les paysans. Et le mil qui était au stade de grainaison, les gens étaient obligés de la nuit même de prendre leur coupe-coupe pour procéder à pour couper les mil qui étaient au stade de grainaison.
Le degré,
voilà. Donc, lendemain, les gens ont attendu, les souterrains n'étaient pas venus. Le deuxième jour, RAS. Là, les gens se sont levés contre le journaliste. Il a fallu qu'une autorité se déplace pour aller dans cette localité, parce que n'eût été son intervention, le pire allait arriver. Je vous donne cette anecdote pour vous dire combien les radios ne sont pas à l'abri de la désinformation. Nous, à notre niveau, ce qu'il y a lieu de faire en tant que journaliste qui évolue au sein des médias et surtout avec ce contexte de prolifération des médias sociaux qui ont engendré la désinformation, ce qu'on doit faire, c'est de revenir aux fondamentaux du journalisme.
Oui, justement, nous allons beaucoup plus en parler dans notre troisième partie. Mais aujourd'hui, dans le traitement, dans votre travail, comment vous vous y prenez même?
Oh, voilà. Et c'est ce que j'allais dire. C'est de revenir d'abord aux fondamentaux du journalisme. C'est quoi revenir aux fondamentaux du journalisme? Un journaliste, dès que une information te tombe dans la main, en tout cas, moi, à mon niveau, c'est ce que je fais. Il faut pas le prendre pour argent comptant. Il faut d'abord vérifier l'information. Vérifier l'information, appeler les sources sûres, les sources crédibles, faire une recouper l'information. Ne pas se focaliser sur une seule personne. Si tu appelles X, il faut appeler Y.
D'accord.
Et tu peux aller jusqu'à Z.
Il faut donc vérifier toute information.
Vérifier l'information, voilà, avant la diffusion.
Monsieur Mamadou, est-ce que c'est ce qui était fait dans le temps, en votre temps?
Absolument, absolument. Il fallait d'abord vérifier l'information et ensuite, il faut avoir une bonne source. C'est-à-dire que vous venez, par exemple, je vais parler un peu terre à terre, d'un incendie ou d'un accident, vous croisez quelqu'un, il dit il a vu l'accident, qu'il y a eu 50 morts. Alors, et il vous dit que c'est une IAS, alors que la voiture IAS ne peut pas prendre plus de 20 personnes. Il vous appartient d'aller vérifier. Et même aller à l'hôpital, c'est dommage, mais commencer à compter les morts.
D'accord.
Et à ce moment-là, vous avez l'information sûre. Il y va de la crédibilité de votre organe et il y va de votre propre crédibilité.
D'accord. Nous allons observer une courte pause avant de poursuivre. Deuxième partie de notre forum, nous allons mettre l'accent sur l'impact de la désinformation sur la société et sur la crédibilité même de la radio. Mais bien avant, Brah Souleymane, précisons d'abord sur des mots-clés que sont la désinformation, la mésinformation. Quelle différence pour nos auditeurs?
La désinformation, il faut les dire, c'est les phénomènes, les fausses informations, puisqu'il y a plusieurs sortes de fausses informations qui sont, s'il faut les catégoriser, il y en a plusieurs, il y a une information qui peut sortir de ce contexte qui peut être trompeur, il y a des canulars, il y a tellement de fausses informations, des photos montées, des vidéos qui peuvent être sorties de leur contexte. Donc c'est l'ensemble qui concilie la désinformation, parce que c'est quoi? C'est que c'est des informations qui sont sciemment créé dans les buts d'induire les publics en erreur et ou de les manipuler.
Justement,
et ça
les
ce qui est surtout important, c'est de savoir qu'il y a une manipulation là-dedans, mais aussi le fait qu'on cherche toujours à induire
en erreur
les gens en erreur. Et c'est ça qui est quand même mauvais de la désinformation, parce que ce n'est pas fortuit que les gens créent donc ces fausses informations. C'est-à-dire que c'est sciemment
que les gens créent ces informations
parce que derrière ça, il y a vraiment des buts, il y a des objectifs, ça peut être des objectifs politiques, parce que il y a des fausses informations qui ont un lien avec, par exemple, les sujets politiques, ça peut être économique, ça peut être culturel. Donc, vraiment, ce n'est pas fortuit que les gens créent ces fausses informations. Surtout, par exemple, dans les contextes sécuritaires. Les contextes aussi d'influence dans nos pays, par exemple les pays du Sahel, vous pouvez voir qu'il y a cette guerre aussi entre les puissances, et tout ça là, c'est au niveau surtout de ces réseaux sociaux.
Mais aujourd'hui, comment détecter une fausse information?
Mais c'est très facile de détecter une fausse information, parce que tout dépend. Vous savez, avec les réseaux sociaux, vous avez d'abord la possibilité de mettre des écrits. des photos et des vidéos. Et chaque utilisateur a aussi la possibilité, c'est-à-dire que lui-même soit de poster, de prendre lui-même la photo, de mettre ça aussi en ligne. Il y a aussi l'instantanéité. C'est-à-dire, en même temps que vous êtes en ligne, si, par exemple, vous prenez un compte personnel Facebook, vous avez la possibilité d'être ami à 5000 personnes. Si c'est une page, donc c'est des milliers aussi de personnes. Et votre publication, elle peut aussi être, en fait, republiée, elle peut être partagée, elle peut être capturée, elle peut être aussi... Et j'allais dire balancer dans les différents groupes WhatsApp. Maintenant, une photo, par exemple, ça, il faut...
C'est le processus ça, du fact-checking,
Du fact-checking. Ça, c'est quand même, il faut être, j'allais dire, un averti. Parce que vous allez voir, par exemple, une vidéo de 2010, elle peut... C'est lui qui cherche à donner cette fausse information. Il peut essayer de la contextualiser en 2024 pour dire qu'elle a été...
Une question de manipulation.
En fait, de manipulation. Oui, oui. Une photo, on peut aujourd'hui prendre votre photo, faire un montage et montrer que... on fait ce débat aussi des Kalangou. On peut faire les montages pour dire que c'est quelque part. Donc, de même qu'il les écrit. Maintenant, comment détecter? C'est-à-dire la première des choses, par exemple. Je prends le studio Kalangou. Le studio Kalangou a des pages certifiées sur les réseaux sociaux. Si... quelqu'un fait envoie une information dit que c'est le studio, mais j'ai la possibilité en même temps d'avoir de regarder est-ce que c'est cette information est publiée sur le compte du studio Kalangou. J'ai la possibilité aussi de voir est-ce qu'il y a une ligne où le studio Kalangou a des contacts ou des numéros qui soient là. Donc il y a tellement
mais
de choses.
Mais tout ce processus de vérification, il faudrait l'étudier ou bien?
Oui, effectivement, parce que c'est aussi un genre, le fact-checking, c'est aussi un genre, c'est un genre journalistique. Et il faut aussi l'apprendre.
Merci bien. Alors vous, monsieur Momodou, à votre avis, quel impact une fausse information peut avoir sur les auditeurs et même la crédibilité de la radio?
Bien sûr. Et vous savez aussi, tout dépend de la présentation de l'information même. Quand vous dites un verre est à moitié vide ou qu'il est à moitié plein, et vous voyez, ça peut changer un peu le sens. Et souvent, je vais peut-être donner quelque chose de très concret. Et vous savez comment on dit le hasard de l'histoire, Mariama est là. Les femmes de Dounia m'ont invité à l'occasion de la journée de la femme. Et j'étais intervenu pour dire que j'étais content et j'ai pensé à ma mère parce que je l'ai perdu bien longtemps et j'avais un peu de sanglots dans la gorge. Et qu'est-ce que vous savez que les journalistes ont fait? Ils sont allés prendre ce sanglot-là, me montrer soi-disant que je pleure parce qu'on est en train de m'enlever de Dounia, alors que j'étais encore à Dounia. Donc vous voyez, c'est pour vous dire que les gens sont capables de transformer une information de la manière.
Alors avant de poursuivre, je vous propose d'écouter le secrétaire général de l'Observatoire nigérien indépendant des médias pour l'éthique et la déontologie, Ibrahim Moussa. Il intervient sur la question.
À partir du moment où les réseaux sociaux et les médias sociaux sont devenus sources d'information, il est très facile aujourd'hui à ce que ces médias traditionnels qui sont les radios de propager de fausses informations. Parce que ce n'est pas tout journaliste qui a guéri ou qui a reçu la formation de comment distinguer les vrais du faux sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, plusieurs informations qui passent sont prises, non pas par les auditeurs, même par nous les professionnels de la radio, pour des informations qu'on peut qualifier de vraies informations, quoi. On les considère vraiment comme des informations avérées. Moi-même qui vous parle, un jour, j'étais tombé dans ce piège. Il y avait le site de la Radio France Internationale, RFI, qui a balancé une information à l'époque, soi-disant que un chef d'État africain est décédé. Bon, ne maîtrisant pas très bien le fact-checking à l'époque, je n'avais aucune idée que le site de RFI avait été piraté et que c'est quelqu'un qui a créé un truc au nom de RFI et automatiquement, sans chercher à vérifier, moi j'ai relayé l'information. La question de vigilance est de mise. Elle est de mise aujourd'hui avec le développement de la technologie.
Alors vous venez d'écouter le secrétaire général de l'ONIMED, Ibrahim Moussa, qui était également tombé dans cette tentative de scoop. Alors vous, Mariam Soumana, comme vous l'avez entendu, des journalistes tombent dans la tentation du scoop pressé de diffuser une information lors d'un événement spécial. Cela accroît bien évidemment les risques d'erreur. Vous, Mariam, dans le feu de la tentation, comment réagissez-vous face à la tentation?
tentation de scoop.
Évidemment, il n'est pas rare de tomber dans ce genre de piège, à rencontrer une information, vouloir la partager, et alors que l'information s'avère fausse. Ce qu'on doit faire pour éviter cette tentation, c'est, comme je le disais tantôt, de toujours vérifier. Aujourd'hui, on a le fact-checking qui s'avère comme un genre journalistique. Je parle sous le contrôle du fact-checker. On peut le considérer comme un genre journalistique. En fait, ça nous donne l'opportunité de vérifier une information. Quand une information te tombe dans la main, faut pas le prendre, comme je le disais tantôt, comme argent comptant. Il faut toujours vérifier. Tu as l'information sur le net. Si ça engage des personnes, il faut aller vers ces personnes ou aller vers leurs proches, chercher des numéros. C'est pourquoi on demande d'avoir aux journalistes d'avoir un carnet d'adresses bien garni pour pouvoir appeler les mises en cause. Quand c'est un élément qui met en cause des personnes, il faut les appeler pour savoir si l'information qui a été donnée, si c'est vrai ou si l'information est fausse. On peut aussi procéder par le fact-checking. Aujourd'hui, si tu as une image dont tu crains de la véracité, tu doutes de cette image, tu peux aller sur Google Images, l'insérer et vérifier si c'est une image authentique ou c'est une fausse image. Vraiment, c'est la vérification. On n'a pas d'autre choix que de vérifier l'information. L'avènement des réseaux sociaux, on demande aux journalistes de toujours vérifier l'information avant de le publier.
On n'a pas d'autre choix que de vérifier avant de balancer une information. Vous, Souleymane, vous êtes fact-checker aujourd'hui. En tant que fact-checker, quelles sont les astuces que vous partagez aux journalistes face aux nouvelles informations, aux fausses informations?
Merci beaucoup. Avant les astuces, il faut les dire par rapport à l'intervention d'Ibrahim. Aujourd'hui, les médias sociaux sont des sources d'information pour les journalistes. Pour un professionnel, vous ne pouvez pas baser sur ce qui s'est dit ou ce que les gens sont en train de partager sur les réseaux sociaux et penser que c'est ça la vérité. Non, c'est des sources d'information pour vous et c'est à vous de compléter ce travail. Parce que les fact-checking, c'est la vérification apostolique. C'est-à-dire que l'information a été déjà donnée. Maintenant, c'est à vous de faire ce travail pour donner la vraie information au public. Puisque aujourd'hui, les doutes existent. C'est partout, même les professionnels, on peut vous tromper. Et vous, en tant que professionnel spécialiste, puisque c'est ça que les publics attendent de vous, c'est votre travail. Donc, vous ne pouvez pas commettre les mêmes erreurs que ceux qui sont là en train aussi de créer sciemment ces fausses informations pour les manipuler. Maintenant, les astuces. La première des choses, j'allais dire, c'est avoir le réflexe de se dire, mais qui a partagé cette information? Comme l'a dit, par exemple, Ibrahim, il a vu une information attribuée au site des RFI. Mais la première des choses, c'est d'aller cliquer sur le site des RFI, voir est-ce que ce site a partagé l'information. Et il verra effectivement si c'est le vrai site ou c'est le faux site attribué à RFI. Donc, deuxièmement, maintenant, c'est de voir souvent la date ou l'année. Je vous prends un exemple. Au niveau des publications, sur Facebook, par exemple, si c'est une publication de 2020, de 2021, ainsi de suite. Mais on voit aussi les moments. Souvent, les gens font sciemment même pour ne pas très bien écrire, par exemple, les noms ou les textes. Vous allez constater qu'il y a des fautes d'orthographe ou de grammaire. Tout ça, là, les gens font ça sciemment. Donc, c'est de voir. Mais c'est aussi de se dire. Parce qu'on a cette tendance, ce réflexe. Dès qu'on reçoit une information, on la
partage.
De la balancer. Mais c'est de dire quelle est l'impact ou quel sera l'impact si je partage cette information. Vous prenez un exemple. Si vous avez une page qui a 50 000 abonnés, on considère que tout celui qui est en ligne va automatiquement lire cette information que vous avez partagée. Si vous êtes dans 50 groupes WhatsApp et qu'au niveau de chaque groupe, il y a au moins 200 personnes, vous faites 50 fois 20, fois 200, vous allez vous retrouver au moins avec 10 000 personnes, qui sont soutenues. Et vous voyez comment ça peut impacter. Maintenant, les autres astuces, comme Mariam a dit, si c'est une image, vous avez des outils qui sont gratuits sur le net, où vous pouvez aller cliquer cette image. Si c'est une vidéo aussi. Maintenant, si c'est une information qui est attribuée à une institution, vous avez la possibilité de voir au niveau de ces plateformes de réseaux sociaux ou de chercher un contact au niveau de cette institution pour vérifier. D'accord. Donc, vraiment, il y a tellement de choses qu'on pouvait mettre en œuvre pour éviter de propager ces fausses informations.
Autant d'astuces que nous, journalistes, doivent faire usage. Alors vous, M. Mamadou, aujourd'hui, comment une radio peut-elle reconquérir une crédibilité perdue du fait de la diffusion d'une fausse information? Vous l'avez entendu, le secrétaire général de l'ONIMED qui était tombé dans la tentative du scoop. Comment on peut reconquérir une crédibilité après la diffusion d'une fausse information?
Il y a d'abord une arme dont doit disposer tout journaliste. C'est la culture générale. Il y a des choses, dès que vous voyez l'information, vous pouvez avoir un certain doute. Mais si vous n'êtes pas suffisamment cultivé, eh bien, vous pouvez balancer l'information et ça va poser le problème. C'est que sur toute information doit être vérifiée. Mm-hmm. Et je l'ai dit tout à l'heure, il y va de la crédibilité de votre média et il y va de votre propre crédibilité.
D'accord.
Parce que si vous donnez des fausses informations souvent, et dès que vous allez donner l'information, les gens vont douter. Est-ce que c'est vrai? Tant que je n'ai pas entendu dans telle radio, je suis sûr que ce n'est pas bon. Alors c'est pour cela que moi je dis toujours qu'il faut avoir cette culture générale. La culture générale, c'est tous les domaines. Dans tous les domaines, il faut lire, il faut apprendre, il faut avoir la curiosité, de manière que quand vous avez une certaine information, dès le début, vous pouvez en douter ou vous pouvez être sûr que c'est la bonne information.
D'accord, mais une radio aujourd'hui, après diffusion d'une fausse information, est-ce qu'elle peut revenir sur ses propos pour donner des éclaircissements à ses auditeurs?
Absolument. Mm-hmm. Il faut revenir sur la question.
Un droit de réponse.
Voilà. Mm-hmm. Bon, il y a le droit de réponse, mais il y a aussi la personne qui a donné l'information est obligée de venir démentir cette information et donner l'information vraie.
D'accord.
Le droit de réponse, c'est une obligation parce que quelqu'un a donné une information et celui qui est concerné demande à répondre. Mm-hmm. Vous êtes obligé de le faire. Parce que sinon, vous allez vous être resté en justice et ça va poser des problèmes.
Vous êtes un doyen aujourd'hui. Est-ce que tout au long de votre parcours, vous avez eu à faire face à une situation de ce genre?
Ah. Bon, je n'ai pas eu exactement sur ce genre de démentir l'information, mais des fois, dans ma jeunesse, j'ai commencé le journalisme il n'y a pas très longtemps. On m'avait donné un appareil, un Nagra, que je devais manipuler. Il y avait la partie test et il y avait la partie enregistrement. Et comme le Nagra était dans son étui, alors j'ai tourné le bouton, mais en fait je n'étais pas sur l'enregistrement, mais j'étais sur le test.
Et
l'aiguille balançait. Je pensais avoir enregistré, et qui enregistrait? C'était le président de la République, Diori Amani.
Ah.
Quand je suis allé, on a essayé d'écouter,
il n'y avait rien.
Réécouter, il n'y avait rien. Alors, comme vraiment, j'ai pris mon Nagra, je suis retourné. Et comme par coup de chance, tout juste je suis venu aux escaliers, et il y avait la première dame Aïssa qui sortait, qui m'avait vu avec mes grosses balafres. Elle me disait, mais qu'est-ce que tu viens chercher ici, ce berbérie? Je dis, ah, j'ai raté mon enregistrement. Elle dit, c'est pas étonnant. Elle m'a pris dans ses mains. Elle m'a amené, elle a appelé le président de la République. Le président de la République a enregistré.
Une nouvelle fois.
Il a appelé le gars de l'ONU qui était à l'hôtel Sahel. En ce moment, c'était le plus grand hôtel. Lui aussi, je suis allé. Il a enregistré et je suis revenu avec les éléments.
Donc, moi, c'est des situations.
Ah ouais, le directeur général de machin, il était paniqué parce que c'était le président de la République.
Effectivement.
Quand il a écouté, évidemment, il était surpris. Il a demandé si j'étais parent à Diori Amani. J'ai dit non.
Ce sont donc des situations qui se présentaient même dans le temps. Alors, nous allons observer une petite pause. Dernière partie du forum de Studio Kalangou. Pour vous qui venez de nous prendre en cours, nous débattons de la radio au Niger face à la désinformation. Quelle perspective pour le futur? Pour cette partie, nous abordons les voies et moyens pour lutter contre les fausses informations dans nos médias et surtout lutter contre la désinformation. Pour cela, je vous propose une fois de plus d'écouter le secrétaire général de l'ONIMED, Ibrahim Moussa, sur le rôle que joue l'ONIMED, une autorité de régulation dans la lutte contre ce phénomène.
En tant que structure de régulation des médias, l'ONIMED a procédé à plusieurs formations des journalistes. dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui le fact-checking, c'est-à-dire la vérification des faits, que ce soit au niveau de la presse écrite ou au niveau de l'audiovisuel. L'ONIMED organise de temps en temps des informations pour édifier les journalistes, pour vérifier une information. Il ne suffit pas juste de voir une information et la prendre pour argent comptant, mais dès que tu vois une information, la première des choses à faire, d'abord, c'est de douter de sa véracité. À partir du moment où tu doutes de sa véracité, maintenant, il y a la procédure que tu vas suivre pour vérifier. C'est surtout ce que l'ONIMED est en train de faire à la date d'aujourd'hui.
Alors, l'ONIMED procède donc à des formations pour les jeunes journalistes pour lutter contre ce phénomène. Vous, Mariam Soumana, aujourd'hui, vous venez de l'écouter. Qu'est-ce qui vous interpelle dans ces propos?
Ce qui m'interpelle, c'est la formation dont il vient de faire cas. En tout cas, il est du ressort de l'ONIMED, qui est l'organe d'autorégulation. Mais également la maison de la presse, même si elle vient d'être suspendue. En tout cas, c'est leur rôle régalien de former les jeunes journalistes par rapport à ce phénomène de désinformation. Et les journalistes eux-mêmes peuvent s'auto-former à travers les logiciels et les outils que offrent les nouvelles technologies de l'information et de la communication afin d'apprendre à mieux fact-checker l'information. À chaque fois quand tu as une information, il faut aller vers le net. Il faut bien se former. Le journaliste a l'obligation de se former parce que nous sommes dans un monde en perpétuelle mutation. Il y a le journalisme aussi est en mutation parce qu'il y a une vingtaine d'années, on ne parlait pas de la désinformation. Justement, bien que la désinformation existe, il n'y avait pas les médias sociaux pour divulguer les fausses informations. D'accord. Mais maintenant, avec les médias sociaux, ça prend de l'ampleur et les journalistes doivent se former et s'auto-former. Donc, la maison de la presse et l'ONIMER sont interpellés afin de poursuivre ces séries de formation au profit des jeunes journalistes.
Alors, M. Mamadou, une réaction, un complément d'information du secrétaire général de l'ONIMED?
La formation, absolument. Oui. Parce que l'école, c'est vrai, vous donne quelques ficelles, mais le journaliste se forme sur le terrain. Et tant que je disais tout à l'heure, s'il n'a pas une bonne culture générale, eh bien, il sera toujours en train de stagner. Mais quand on a les ficelles du journalisme et qu'on continue à se cultiver, eh bien, aujourd'hui, bon, j'ai certainement enseigné certains d'entre vous, mais aujourd'hui, probablement qu'ils sont mieux que moi. Donc, vraiment, il faut se cultiver.
Le maître que vous êtes aujourd'hui est fier de ses élèves.
Mais absolument, je suis fier parce que si vous contrôlez l'ensemble des radios et télévisions du Niger, jusqu'aux radios communautaires, à plus de 80%, je leur ai donné quelques petites ficelles du métier.
Alors, Monsieur Bra, le secrétaire général de l'ONIMED parlait de formation. Alors, vous, quelle idée de renforcement de capacité aux médias, les propos du secrétaire général vous inspirent-elles aujourd'hui?
Il faut effectivement revenir surtout aux fondamentaux. Vous savez, les doyens vont me compléter, la rumeur a toujours existé. Le journaliste est là parce que c'est son travail, c'est sa profession. Il est là pour d'abord chercher, collecter, traiter et diffuser l'information. Donc, il y a d'abord la vérification. Et dans la vérification, il faut aussi recouper. Donc, comme je l'ai dit, ces réseaux sociaux-là, pour les professionnels, c'est des sources d'informations. Mais malheureusement,
il faut en savoir quel usage.
Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? Puisque tout à l'heure, vous parlez de la crédibilité des médias et du journalisme lui-même. Aujourd'hui, on a tendance, aujourd'hui, avec ces médias sociaux, à suivre certains activistes. Et ce qui est aussi malheureux, c'est que ces mêmes journalistes, eux-mêmes, ils pensent qu'ils doivent suivre aussi ces gens. Il faut les suivre, c'est une bonne chose, mais c'est des débuts, c'est des sources d'informations. Maintenant, c'est à vous d'aller compléter.
Justement, quelles recommandations donnez-vous à la nouvelle génération de journalistes aujourd'hui?
C'est-à-dire qu'un journaliste, il doit se dire qu'il est un professionnel et que sa profession a des règles, a des principes qu'il doit effectivement chercher à connaître et à respecter. Puisque la première sécurité ou la première garantie pour un journaliste, c'est de connaître les textes. On a aussi la charte, puisque c'est dans la charte, professeur du Niger. C'est des chartes, on a nos droits et nos devoirs.
D'accord.
Par exemple, au moment des élections, on sait qu'il y a aussi charte de bonne conduite. Tout ça là, les journalistes doivent chercher à connaître ces principes fondamentaux qui fondent son métier. Les médias eux-mêmes doivent se dire que c'est leur travail aussi de former leurs agents. Mais moi aussi, en tant que journaliste professionnel, je peux aussi me donner les moyens d'aller me former parce que la formation, elle est quand même importante, mais de connaître aussi les textes et de revenir sur les fondamentaux du métier.
La formation, elle est primordiale. Alors vous, Mariama, un mot à vos confrères et consoeurs journalistes pour mieux travailler dans l'éthique et la déontologie du journalisme dans ce contexte où ces fausses informations sont propagées.
Le premier conseil que j'ai à leur donner, c'est d'avoir une culture générale, de lire. Il faut beaucoup lire. Il faut respecter les règles du journalisme. Revenir sur les fondamentaux, vérifier l'information comme je le disais tantôt. Il faut avoir un carnet d'adresses garni. Il faut toujours aller vers les sources crédibles. Il faut aussi se former. Le journaliste doit se former.
D'accord. Alors, j'espère bien que tous ces conseils sont rentrés dans les bonnes oreilles. Monsieur Mamadou, le doyen, alors aujourd'hui, comment même, quelles sont les sources crédibles aujourd'hui pour avoir accès à une information? On sait que la radio, on l'a dit, est la meilleure source, mais aujourd'hui, pour terminer.
Alors, les sources, elles sont nombreuses, mais il faut avoir un bon carnet d'adresses. Un bon carnet d'adresses, surtout que, bon, par le passé, nous, c'était de papier, on écrivait sur un petit carnet. Mais aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle les téléphones portables, dans lesquels vous pouvez porter toutes les adresses. Et la moindre des choses, c'est d'appeler. D'appeler pour confirmer telle ou telle information. N'hésitez pas. Si lui, la personne peut être concernée, vous ne pouvez pas la joindre, essayez de joindre des gens qui peuvent vous donner la bonne information. Ne vous fiez toujours pas, c'est-à-dire, il y en a qui se fient à l'information qu'ils ont ou à ce qu'ils connaissent. Oui, c'est vrai.
Mais monsieur Mamadou, aujourd'hui, il y a des sources officielles, si je peux le dire, des institutions qui refusent même de parler aux journalistes.
Oui, mais absolument. Oui. Et pourtant, il y a une loi, d'ailleurs, qui condamne. Si vous demandez une information et que la personne qui doit vous donner l'information administrative ou qui la retient,
elle n'est pas respectée.
Vous pouvez porter plainte.
Malheureusement.
Mais malheureusement, vous savez, les gens ont peur de leurs supérieurs. C'est-à-dire alors qu'il est le spécialiste, que même le supérieur s'adresse à lui pour avoir les bonnes informations. Il faut aller voir mon chef. Ah, il faut ceci, etc. Même pour une information simple, rien du tout. Hein. Ce n'est pas même une information confidentielle ou autre, mais la simple information qui devait être à la portée de tout le monde. Malheureusement, il y en a qui font la rétention.
Surtout sur les questions de la santé, il y a des informations qui ne sont pas données.
Oui, ça, il y a le secret où un médecin ne peut pas vous dire, voilà, de telle maladie souffre X ou Y. Mais par contre, si quelqu'un est malade, vous pouvez dire qu'elle est malade.
Oui, justement,
et vous pouvez aller trouver même cette personne, si elle accepte de vous parler. Elle dit, je souffre du cancer ou de telle autre maladie.
Le secret professionnel.
Il n'y a pas de problème. Alors, et il y a aussi un autre aspect, attention. Quand vous faites une interview avec quelqu'un, qu'il vous donne certaines informations, il vous dit, s'il vous plaît, ces informations, c'est pour vous.
Donc, on n'est pas censé les diffuser.
Et le reste, maintenant, vous pouvez... Je vais vous aller à une anecdote. Il y a quelqu'un qui avait enceinte...
La protection des sources, oui.
Il y a quelqu'un qui avait enceinté sa fille. Le président Kounté m'a appelé, il m'a donné tous les détails. Et c'est lui-même qui me dit, dis seulement aux Nigériens de faire attention, mais si tu donnes le nom ou autre, c'est toi qui vas aller en prison.
Monsieur Mamadou, pour terminer, un conseil à cette nouvelle génération de journalistes aujourd'hui.
Travaillez et surtout contrôlez vos sources, vérifiez vos sources. Et surtout, c'est le travail qui paye. Hein. Dans toute chose, on tombe, on se relève, etc. En notre temps, je me rappelle, il y en a même qui étaient des amis, quand on amène notre papier, ils le froissent devant nous et ils le jettent dans le panier. On nous dit d'aller recommencer. On va recommencer avec plaisir.
D'accord.
Mais si vous le faites aujourd'hui, vous êtes votre son ennemi.
Alors travaillons, car le travail paye toujours. Il faut donc revenir sur les fondamentaux du journalisme. Vérifiez toujours une information avant de la diffuser pour éviter de tomber dans la propagation des fausses informations qui ont un impact énorme tant sur la société que sur la crédibilité de la radio. Et c'est ici que s'achève cette émission qui avait pour thème la radio au Niger face à la désinformation. Quelle perspective pour le futur? Nous étions en compagnie de Mamadou Zarami, un doyen de la presse. Merci monsieur Mamadou d'être venu.
Merci madame.
Mariama Soumana, jeune journaliste qui évolue dans la radio, merci à vous.
Merci ma fille.
Et Bra Souleymane, il est fact-checker et président de l'association nigérienne pour l'éducation aux médias et au numérique. Merci à vous.
Merci aussi.
La technique a été assurée par Abdelkader Tchambiano. Je suis Nafissa Adam Sirfo à la modération. À très bientôt sur le studio Kalongo. Au revoir. Thank you.